Chapitre 5. Le sorcier en chef Maxime n'avait jamais eu meilleure mine. La tenant par les cheveux, Adessa souleva sa tête pour le regarder bien en face. Sonder ses yeux morts l'emplit d'une délicieuse satisfaction, une poussée d'euphorie presque. Le corps sans tête de Maxime gisait dans la poussière devant la maison. Le torse défoncé par un rondin, un piège signé Adessa, l'ancien maître d'Ildakar n'avait pas eu le temps d'esquisser un geste pour se défendre. La chef des Morassites approcha la tête du mort de la sienne. Meilleure mine, c'était de l'humour noir. Jadis d'une beauté frappante, Maxime s'était délité avec le temps, mais là, la bouche ouverte, les paupières pendantes, du sang sur son bouc, il avait certainement connu des jours meilleurs. Après avoir reçu le rondin en pleine poitrine, le sorcier en chef n'aurait pas survécu très longtemps. Mais Adessa n'avait pas voulu le laisser mourir tranquille. Histoire que le gardien le récupère plus vite, elle l'avait décapité d'un seul coup de lame. « Ma mission est achevée, » annonça-t-elle au défunt. « J'ai toujours su que j'aurais ta peau, mais tu étais trop arrogant pour le croire. » Bien entendu, Maxime ne répondit pas. Mais un muscle se contracta sur sa joue. Surprise, Adessa sursauta. Toutes ses chairs se relâchant, le mort ouvrit encore plus grand la bouche. Adessa inspira à fond. Elle avait exécuté les ordres de la Sovréna, se gagnant le droit de rentrer à Ildakar. Maxime avait trahi la cité en fomentant une révolte parmi la populace. Pour se distraire, tout simplement. Une telle félonie dépassait l'entendement d'Adessa. Comme toutes ses Morassites, elle était aveuglément fidèle à Ildakar et au Douma des sorciers. La nuit de l'émeute, pendant que la foule égorgeait ses maîtres et détruisait la société parfaite de Tora, ruinant des millénaires d'efforts, Maxime s'était enfui en riant comme un démon. Au milieu du chaos, Tora avait ordonné à Adessa de le poursuivre et de lui rapporter sa tête. Des jours et des semaines durant, elle avait traqué sa proie dans les marécages le long du fleuve Chasse-Corbeau. Pour finir, elle l'avait coincée ici, où se dressait une maison isolée. Avec délice, Adessa se souvint du bruit qu'avait fait sa lame en tranchant la colonne vertébrale du traître, un moment qu'elle n'oublierait jamais. Dans son dos, un grincement l'incita à se retourner, vive comme l'éclair. Près du jardin, cinq statues très étranges se dressaient. Un colosse aux vêtements rapiécés, une femme à la tête recouverte d'un foulard et trois enfants, une fillette de 5 ans environ et ses deux frères un peu plus âgés. La famille revenait à la vie. De nouveau, les torses se soulevaient et la peau reprenait sa texture normale. Adessa se détendit. Elle aurait dû prévoir que ça arriverait une fois Maxime mort. Au village, elle avait appris que les fariers, de braves gens, s'étaient montrés très hospitaliers avec le sorcier en chef. Découvrant sa véritable nature, ils avaient tenté de fuir, mais leur vie s'était soudain arrêtée. Sans Adessa, ils seraient peut-être restés pétrifiés à jamais. Là, tout était changé, une chance pour eux. Cela dit, ils revenaient à la conscience sans savoir combien de temps ils s'étaient absentés, et une femme couverte de sang les accueillait, une tête coupée à la main. De quoi craquer un peu. La fillette cria, et la mère, d'instinct, chercha à protéger ses plus jeunes enfants. Le père resta auprès du fils aîné, prêt à tout pour défendre sa famille. Adessa comprit qu'elle devait être terrifiante. Musclée, vêtue de cuir noir, la peau cachée sous des runes, elle baissa la tête de Maxime et lâcha d'une voix rauque. « Le sorcier en chef ne vous fera plus de mal. Il est mort, comme vous pouvez le voir. Plus rien ne vous menace. » Les cinq miraculés dévisagèrent Adessa. Puis ils étudièrent le cadavre étendu sur un lit d'aiguilles de pin séché. « Je suis Adessa, chef des Morassites d'Ildakar. Chargé d'exécuter Maxime, j'ai rempli ma mission, comme d'habitude. » Alors qu'ils auraient aimé d'étaler comme des daims apeurés, les cinq revenants se serrèrent les uns contre les autres. « Je ne vous veux aucun mal, et le sorcier en chef ne nuira plus à personne. » Adessa croisa le regard de la fillette et il eut une certaine fascination pour la tête de Maxime, mêlée de terreur, bien entendu. « Je dois ramener mon trophée à Ildakar. » Bien qu'encore sur ses gardes, le père se détendit et passa un bras autour des épaules de sa femme. « En tuant ce monstre, vous nous avez sauvés. »« Que vous est-il arrivé ?» demanda la mère. Malgré son jeune âge, elle avait le front très ridé.
On a quitté la maison de nuit pendant que Maxime dormait. L'idée, c'était de sauver nos enfants et d'aller demander de l'aide.
Il vous a pétrifié, dit Adessa.
Contre son sortilège, vous n'aviez aucune chance.
Je me souviens d'avoir couru, dit le fils aîné. En me retournant, j'ai vu Maxime sortir de la maison, j'ai voulu crier, mais...
Nous étions des statues, s'étonna le père. Des blocs de pierre debout sous les arbres.
Désormais, vous êtes de nouveau en chair et en os, libre de reprendre le cours de votre vie.
Hargneusement, Adessa flanqua un coup de pied au cadavre.
Je l'ai eu, ce chien.
Regardez ce tronc attaché à une corde. Concentré sur moi, il n'a rien vu quand j'ai déclenché mon piège. S'il avait été plus méfiant, il s'en serait sorti, mais c'est fini, mes amis.
Contournant la charogne, les fariers prirent le chemin de leur maison.
Nous vous devons beaucoup, dit la mère. Quelque chose vous ferait plaisir?
Adessa resta où elle était.
J'ai un trophée à livrer et un long chemin devant moi.
Arrivé devant la porte, le père se retourna.
Dînez donc avec nous. Un bon repas vous donnera des forces pour le voyage.
Avec ton bon cœur, souffla la mère à l'oreille de son mari, tu ne nous as pas attiré assez d'ennuis.
Adessa brûlait d'envie de partir. Cela dit, plus rien ne la pressait puisque Maxime était mort. Soudain, la fatigue la rattrapa. Tant qu'elle traquait sa proie, personne n'aurait pu la ralentir et encore moins l'arrêter. À présent, plus rien ne la stimulait. Enfin, si, ramener la tête à Tora, mais pour ça, il fallait que ses jambes la portent.
« J'accepte votre invitation, »
dit-elle. Sans lâcher son trophée, elle emboîta le pas au farrier.
« Vous devez absolument garder ça ?»
demanda la mère horrifiée.
« Absolument, oui. »
Alors que les gosses lorgnaient la moracite d'un œil morne, le père alluma des bougies puis fit du feu dans la cheminée. Bientôt, une chaude lumière inonda la salle commune. La fillette et le cadet filèrent se coucher, blottis l'un contre l'autre. Le fils aîné resta près de son père pendant que la maîtresse de maison sondait le garde-manger pour voir ce qui leur restait.
« Ce rustre a dévoré presque toutes nos réserves !»
se plaignit-elle.
« Il a laissé un peu de jambon, du poisson fumé et du fromage. Le pain, lui, est dur comme du bois. »«
Je le mangerai !»
dit Adessa.
« J'ignore combien de temps Maxime a vécu seul ici, mais il ne se serait jamais abaissé à faire cuire son pain. »«
S'il reste un poulet dans le jardin, je peux lui tordre le cou. »
Le père sourit.
« Si vous consentez à attendre, ce sera un festin. »
Adessa réfléchit, puis secoua la tête.
« Non, je dois partir. »
Maître Farrier parut soulagé qu'on décline son offre. Sa femme posa sur la table tout ce qu'elle trouva de comestible, puis elle appela les enfants. Adessa s'assit et posa la tête tranchée au bord de la table. Maître Farrier la regarda gênée.
Dans la citerne, il doit y avoir de l'eau si vous voulez vous laver avant de manger. Sur vous, il y a beaucoup de sang.
Adessa s'inspecta.
Le sang de Maxime avait giclé, éclaboussant ses bras, son torse et la bande de cuir qu'elle portait autour des seins. En séchant, le fluide vital formait une sorte de message qu'elle était incapable de déchiffrer.
Le sang d'une victime, c'est un signe d'honneur. Pourquoi devrais-je m'en priver?
Maîtresse Farrier coupa à la hâte le jambon, le poisson et le fromage, puis ils trinquèrent à l'eau. Dans un silence pesant, Adessa avala sa portion sans se soucier du goût des aliments. Maxime mort, elle tenta de sentir les vestiges de la magie du sang au plus profond d'elle-même, mais elle n'en trouva plus. Après que son enfant jamais né lui eût donné le pouvoir requis pour tuer un sorcier, elle était revenue à son état normal. Bref, elle restait terriblement dangereuse. Gênés par la tête coupée, les fariers mangèrent en silence. Sur la table, le cou sectionné laisserait des traces qui ne s'effaceraient pas. Quoi qu'il arrive, dès qu'ils les verraient, les fariers repenseraient à cette journée.
« Vous devriez l'enterrer dans le jardin, »
dit Adessa quand elle eut fini son pain dur. Maître Farrier la regarda puis hocha la tête.
« Oui, on se débarrassera de lui. »
Les deux petits gémirent de peur. Adessa finit son repas et vida son gobelet.
« Je dois filer. » J'ai des lieux et des lieux à parcourir.
On vous mettra sur le bon chemin,
assura Maître Farrier. Il se rembrunit, conscient d'avoir parlé un peu vite. Après tout, on était en pleine nuit.
Vous faut-il des provisions? De quoi avez-vous besoin pour le voyage?
Un ruisseau de gants,
dit Maîtresse Farrier,
On trouve tout, vous pourrez vous ravitailler sans problème.
Je n'ai pas besoin de grand-chose.
Adessa vérifia ses armes. Une épée, un couteau et la pointe douleur spéciale des Moracites, capable de déclencher une souffrance atroce par simple contact. Alors qu'elle saisissait la tête de Maxime par les cheveux, une idée lui vint.
Un sac pourrait m'être utile.
Oui, un sac.
Maîtresse Farrier fouilla dans ses tiroirs et en sortit un sac de toile naguère rempli de millet. Après avoir remercié son hôtesse, Adessa fourra la tête dans le sac, enroula la partie vide autour de son bras et se leva.
« Je dois y aller »,
dit-elle en guise d'adieu.